Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Les libraires. Au programme, la place du manga se dessine au Québec. Et Maud Neuve-Villeneuve dans l'univers de Jimmy Beaulieu. Chez l'archiviste mélancolique. Bonne écoute.
La place du manga se dessine au Québec. Un texte de Valérie Harvey, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Quiconque a déjà visité un salon du livre a sans doute vu la nuée d'enthousiastes sortant des autobus jaunes et se massant autour des kiosques consacrés au manga. Le monde de la BD se transforme avec la montée en force de ce genre, à tel point qu'on voit apparaître les premières créations 100% québécoises avec la série d'aventures « Les élus Eljun » aux éditions Michel Quintin. C'est lors d'un salon du livre en 2021 qu'un éditeur de chez Michel Quintin remarque tous ces jeunes qui s'agglutinent autour des kiosques voisins dédiés au manga. Cet éditeur, spécialisé en littérature jeunesse, constate alors que le public est très intéressé par ces bandes dessinées en noir et blanc. Pourquoi ne pas essayer? De plus, il avait deux atouts dans sa manche. Le scénariste Jean-François Laliberté et le dessinateur Sacha Lefebvre, tous deux déjà collaborateurs pour la BD Humerlin publiée à son enseigne. Un soir, lors de ce salon, autour d'un repas, Michel Quintin leur a donc demandé s'ils avaient déjà pensé à faire un manga. Quand Michel a dit ça, j'ai pensé qu'il avait sûrement vu mon Instagram, mais non, c'était juste un add-on. Les astres ne pouvaient pas être mieux alignés, parce que ça faisait un an que je pratiquais. Pendant la pandémie, j'ai cherché mon style artistique. Alors j'ai plongé dans l'animé et le manga, délaissé depuis l'adolescence. J'ai beaucoup exploré comment ils font les visages, les yeux, l'expression. C'était un pur passe-temps à ce moment-là, raconte Sacha Lefebvre. La recherche entamée pendant la pandémie allait donc servir pour ce nouveau projet. Pour Jean-François Laliberté, les idées se sont mises à affluer dès la question de l'éditeur énoncé. Voulez-vous quelque chose comme Naruto ou Class Assassination? Ce qui était important pour eux, c'était de créer un nouvel univers. Dans Humerlin, on s'inspire des légendes arthuriennes avec des robots qui défendent la Terre, à la Evangelion et Gundam. Sacha et moi, on crée facilement des univers ensemble. Avec la mythologie nordique, j'avais plein d'idées, déjà des pouvoirs à explorer, poursuit Jean-François. C'est ainsi que se sont faits les premiers pas de cette série où Revenir, choisi par l'arbre de la vie, a tout oublié de ses combats passés. Lorsque le village où il est devenu berger est menacé par les forces du néant, la guerrière Ulfa le rejoint pour qu'il réapprivoise sa puissance et retrouve son rôle d'élu. Bouillonnement du monde manga. En 2022, la part de marché du manga au Québec représentait 3% des ventes des librairies indépendantes. Si on compare avec 2020, les mangas ne représentaient alors que 1,4%. En deux ans, la part du marché a donc doublé. Le succès du manga est une réalité relativement nouvelle au Québec, mais le mouvement est commencé en France depuis longtemps. Outre-Atlantique, les ventes ont doublé depuis 10 ans, ce qui signifie qu'en 2022, 14% de toutes les ventes de livres étaient des mangas, selon les chiffres présentés en conférence par le Festival d'Angoulême qui célèbre la BD sous toutes ses formes. GFK 2023. On n'en est pas encore là, mais l'effervescence est bien présente au Québec. On trouve maintenant des librairies spécialisées en manga, des formations pour maîtriser les codes du dessin et même un tout nouveau cours sur les mangas cet automne à l'Université du Québec en Outaouais. L'an dernier, la toute première bourse au Canada pour la création de manga a été lancée. Organisée par Otaku Manga Lounge, soutenue par de grands noms du domaine de l'édition et en collaboration avec le Festival de la BD de Montréal, FBDM, la bourse manga vise à identifier et à encourager les talents émergents dans l'écriture manga au Québec et éventuellement dans le reste du pays. Bourse manga 2022. L'édition 2023 est d'ailleurs en cours et des dessinateurs sont peut-être tout proches en train de faire bouillonner leurs idées et de noircir les pages. Rouge Nuit, la lauréate de la bourse manga 2022, publiait des chapitres en ligne depuis quelques années. Elle confirme « Gagner ce prix, c'est une manière de valider mon travail. Ça efface un peu mes doutes. Ça m'encourage à croire que ce que je fais, ce n'est pas si mal. Je veux consacrer plus de temps à dessiner des mangas. » Elle n'est pas seule à avoir commencé avec la publication numérique. Il y a plusieurs passionnés québécois comme J.B. Voyer, pseudonyme Le Raton CDK, basé à Rimouski, qui a créé le scénario des Chroniques de Carnois, dessiné par la Belge Aya Luna. Le franco-canadien Tony Valente est sans doute le mangaka, dessinateur de manga, le plus connu du monde francophone, car sa série Radiant, publiée par l'éditeur français Ankama, a eu un tel succès qu'elle fut adaptée en dessin animé et traduite en anglais et en japonais. C'est le premier manfra qui a réussi à atteindre le pays du soleil levant. Qu'est-ce qu'un manfra? C'est le mot qu'on a inventé pour parler des mangas français qui se multiplient depuis quelques années. Il existe aussi les manhwa pour les mangas coréens ou manhua pour les mangas chinois. Comment pourrait-on appeler le manga québécois? J'appellerais ça un mankusa. Ça rappelle le mot manga avec une touche québécoise, propose Jean-François Laliberté. Les éditeurs québécois se lancent dans l'aventure. Après Presse Aventure, qui publie depuis 2021 l'hybride entre le manga et le livre de yoga Vinyasa Ninja, par Olivier Hamel et Olivier Carpentier, c'est au printemps 2023 que les éditions Michel Quintin lancent le premier tome du manga 100% québécois, Les Élus Eljun. Pour y arriver, ce fut toute une aventure. Il a fallu expliquer ce qu'est un manga, que ça se lit de droite à gauche avec une jaquette extérieure, un mot des auteurs sur les replis, la façon de dessiner les mouvements, le contour noir pour les flashbacks. On voulait que les codes soient respectés, raconte Jean-François. Sacha ajoute, le chibi, on n'en avait jamais vu avant, et ça peut être déstabilisant de passer à un style de dessin où les personnages deviennent tout à coup caricaturés, comiques, voire si déçus. Le deuxième tome, Les Élus Eljun, est à venir à l'automne 2023, puis les autres suivront graduellement car les créateurs veulent aussi laisser de la place à Humerlin. Sacha précise avec le sourire, « On ne veut pas mourir à l'ouvrage, on a fait mettre ça dans nos contrats. » Excellente idée, quand on connaît la pression mise sur les mangaka au Japon. Pour faire une longue série, on leur souhaite la santé, et encore de belles idées. C'était « La place du manga se dessine au Québec », un texte de Valérie Harvey, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Mot de Neveu Villeneuve dans l'univers de Jimmy Beaulieu, chez l'archiviste mélancolique. Un texte de Mot de Neveu Villeneuve paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. C'est bon combien de temps du lait d'avoine? Dans sa cuisine, Jimmy Beaulieu m'offre un café. Habituellement, je le prends avec un peu de lait, mais nous avons un doute sur le lait d'avoine ouvert depuis un peu trop longtemps dans son frigo. Je boirai mon café noir. Devant la fenêtre, à côté du frigo, il y a des fleurs dont nous ignorons le nom, reçu pour son anniversaire qui tombait le jour du lancement de Jardin des Complexes et un basilic qui a traversé l'hiver en s'étirant vers le soleil. Je fais remarquer à Jimmy que cette plante tout en tige est une belle métaphore, alors qu'il publie un premier livre en solo depuis 2016 après avoir vécu des deuils difficiles. Mais il refuse mon analogie. Comme le basilic finira inévitablement par mourir, ce serait trop terrible. À l'âge que j'ai, je pense qu'il faut que j'admette que je suis un peu superstitieux. Pendant qu'il s'active autour du moulin et de la machine à café, on jase du récent Salon international du livre de Québec. Apparemment, j'y ai raté une mémorable soirée de karaoké, et de cette année 2023 qui en est une de chiffres ronds dans sa carrière. Jimmy travaille dans le milieu depuis 30 ans, comme libraire, comme éditeur et comme dessinateur, et enseigne la BD depuis 20 ans. Je m'empresse de noter le fait que, depuis 1993, il n'a jamais raté un seul festival de la BD de Québec. C'est la seule note que je prendrai pendant les presque 2 heures que je passerai chez lui, en ce jour d'avril gris et encore trop froid à mon goût. Ça te dérange si j'enregistre? J'haïs ça prendre des notes en parlant avec quelqu'un. Ça ne le dérange pas. Mais ça le force à fermer la musique, ce qui me paraît presque sacrilège. La musique occupe tellement d'espace dans son œuvre et dans son appartement et dans sa vie, que c'est étrange de ne pas en retrouver en bruit de fond de notre conversation. Il faut savoir qu'il a, jadis, vendu tous ses instruments de musique pour faire imprimer son premier livre. Au moment d'écrire ce texte, pour me mettre dans l'ambiance, je retrouverai la playlist Spotify qui jouait chez lui quand je suis arrivé, pleine de titres que je ne connais pas. D'ailleurs, je lui confie ce jour-là que je suis toujours un peu largué par les références musicales dans ses livres, moi qui n'écoute que les mêmes affaires depuis des années. Il me rassure. Oui, les extraits qu'il choisit ont un lien avec le récit, mais c'est un bonus, un cadeau. Et quand il faut s'imaginer la chanson parce que les personnages dansent, par exemple, il s'assure que les références ne sont pas trop pointues. La première chose que Jimmy me montre quand j'arrive, c'est la pièce qui jouxte la cuisine. Elle est entièrement consacrée aux bandes dessinées, classées par ordre alphabétique de dessinateurs. Elles remplissent des bibliothèques, positionnées de façon labyrinthique, ce qui m'évoque à la fois la librairie Abbé Bookshop à Paris et mon rêve d'enfance, qui est aussi le sien. Une parfaite cachette à lecture. J'ai l'impression de payer un loyer pour mes livres, lance-t-il, mais pour lui, c'est une question d'amour. Et, comme il le fait remarquer, quand on compte sur le fait que les gens achètent nos livres, ce serait un peu absurde de ne pas en acheter aussi. Pendant que nous buvons nos cafés noirs, il me montre son atelier installé au milieu de l'appartement. Sur les murs, des affiches de cinéma et des dessins, certains de lui, certains d'autres dessinateurs. Auparavant, Jimmy a travaillé avec d'autres artistes dans un atelier partagé de la rue Saint-Hubert. À cette époque, dit-il, j'étais plus discipliné, plus assidu, mais les faces de mes personnages étaient toujours à recommencer. C'est ainsi que je découvre que, pour dessiner des expressions faciales, une bonne méthode consiste à les tester soi-même, ce qui peut être un brin gênant quand on est entouré de monde. Ça ne devrait pas me surprendre. Je fais la même chose quand j'écris, caché dans mon sous-sol, mais aussi quand je lis et que l'auteur décrit une expression difficile à imaginer. Dans l'atelier partagé, donc, si la présence des collègues pouvait avoir un effet d'émulation, Les interruptions pouvaient aussi nuire à la concentration. Depuis la pandémie, Jimmy travaille chez lui, ce qui lui permet certes de passer directement de la table à dessin au fauteuil du salon à la fin de la journée, mais qui reste assez solitaire et plus propice à la procrastination. Il n'y a pas d'atelier idéal. À côté de la table à dessin, sur laquelle se trouve un ordinateur portable qui sert essentiellement à faire jouer de la musique et à chercher des images de référence, les étagères sont pleines de crayons divers et de papeterie. Pourtant, malgré la quantité impressionnante de matériel qui nous entoure et malgré le fait que prendre le CureTake numéro 13 et l'écraser sur un Bristol Hexacompta avec de l'encre carbone, c'est un des gros plaisirs de l'existence humaine, Jimmy me raconte que, depuis la pandémie justement, il travaille à la tablette pour la bande dessinée et les contrats. Cette méthode a ses avantages, notamment pour accélérer le travail de mise en scène et pour ses ateliers où beaucoup d'élèves utilisent le logiciel Procreate. Mais elle a aussi l'inconvénient, alors qu'il y fignole encore plus ses dessins, de ne pas laisser de traces du processus. C'est un inconvénient parce que, comme en témoignent toutes les pièces de son appartement, Jimmy a une âme de collectionneur et d'archiviste. Il est catastrophé quand des amis se débarrassent des planches originales de leurs livres. Envoyez ça à la BANQ, au moins! Et il conserve ses propres originaux, notamment dans un meuble à tiroir dédié à cet effet. Vous écoutez Maud Neveu-Villeneuve dans l'univers de Jimmy Beaulieu chez l'archiviste mélancolique, un texte de Maud Neveu-Villeneuve paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Quand il ouvre les fameux tiroirs pour m'en montrer le contenu, j'ai l'impression de tomber sur un coffre au trésor. Les morceaux de dessins incomplets, les multiples versions d'une même case de rôle de composition, les bouts de personnages, cheveux, jambes, silhouettes, les petits mots hors contexte sur un coin de page sont fascinants, de quoi régaler des chercheurs en génétique littéraire s'ils venaient à s'intéresser à son œuvre. Comme lui, je me passionne pour ce genre d'archives qui permettent de deviner les chemins que prennent l'esprit et le crayon pour arriver à l'œuvre définitive. Je pourrais passer des heures à parcourir le contenu des tiroirs bien garnis. Jimmy admet que, sans le travail d'édition, la quantité d'originaux et de versions incomplètes serait encore plus grande, puisqu'il n'arrêterait sans doute jamais de retravailler ses dessins. Heureusement, Renaud, son éditeur chez Nouvelle Adresse, qui est aussi le mien aux 400 coups, est là pour mettre un frein à son perfectionnisme. Il faut bien envoyer les livres à l'impression un jour. En plus du meuble à tiroir, Jimmy conserve dans la pièce bibliothèque labyrinthe des bacs remplis de cahiers qui ont survécu de peine et de misère à 5 dégâts d'eau successifs survenus dans 2 appartements différents en l'espace de 18 mois, un cauchemar d'archiviste. Grâce aux vaillantes Billy d'IKEA, ces livres ont largement échappé à l'inondation, à l'exception de la lettre D. Ce sont les carnets irremplaçables qui ont constitué la plus grosse perte. En silence, j'imagine des champignons poussé entre les pages humides des sketchbooks, enfermés dans leur bac de plastique, et je finis mon café. Pendant que Jimmy nous en fait couler un deuxième, noir toujours, j'observe le meuble qu'il fait se sentir un peu fatigué. C'est son showroom qui contient tous ses livres et leurs différentes traductions, en plus des collectifs auxquels il a participé, des fanzines et des livres qu'il a édités, notamment chez Mécanique Générale, qu'il a fondé en 2002. En mesurant l'ampleur du corpus, je le taquine. J'aurais cru que c'était le meuble qui te rendait fier, pas fatigué. C'est que, sans tomber dans la fausse modestie, Jimmy est un incorrigible mélancolique. La joie de vivre ne lui vient pas facilement, comme il le dit lui-même, et ça fait partie du personnage de relever ainsi l'essoufflement qui se cache derrière le glamour. Il reste un casier vide dans l'étagère. De l'espace pour les livres à venir. Avec nos deuxièmes cafés, on migre vers le salon, où ce sont les vastes collections de films et de disques, comptant parfois plusieurs éditions de la même œuvre, qui occupent l'espace aux côtés des plantes adoptées pendant la pandémie. C'est le moment où je sors mes notes pour donner un peu de structure à notre discussion qui, jusqu'à maintenant, tient à la fois de la visite guidée et du bavardage entre collègues qui se côtoient depuis plus de 15 ans dans des événements littéraires. Dans ma propre collection de livres, la première dédicace de Jimmy remonte à 2006, dans son petit livre très atmosphérique « Moins 22 degrés Celsius. » La première question que je lui pose est tellement évidente que j'en suis presque gêné, mais je ne peux pas passer à côté. Moi qui l'ai connu pour ses BD autobiographiques, « Le moral des troupes » paru en 2004, est le premier de ses livres que j'ai lus. Je veux l'entendre sur son éloignement du genre, puis son retour vers l'autobiographie avec « Jardin des complexes ». Que s'est-il passé? Est-ce que, comme d'autres, il s'est retrouvé coincé entre le respect de l'intimité de ses proches et son envie de se raconter? La réponse est plus nuancée et, je dirais, plus intéressante. Je me suis rendu compte que l'autobiographie, ça faisait que je pouvais juste avoir un personnage, c'est-à-dire lui-même. Par respect pour son épouse de l'époque, il en dessinait une version incomplète qui finissait par n'être qu'un sidekick toujours souriant, un peu fade. Le seul personnage dont il se permettait de montrer les défauts et le seul personnage qu'il pouvait tourmenter était son propre avatar. Le passage vers la fiction est donc venu d'une envie de raconter des histoires à travers d'autres personnages, même si nous convenons tous les deux que, même en fiction, on parle toujours de soi et de ses propres préoccupations. Jimmy regrette d'ailleurs de ne pas avoir commencé plus tôt à travailler la construction de personnages. Il cite en exemple la bédéiste Sophie Bédard, particulièrement douée pour la création de personnages complexes et variés. Si je fais encore des livres à 75 ans, peut-être que je vais avoir développé ça, blague-t-il à moitié, avec ce petit côté cynique que lui connaissent ses lecteurs. Ses albums de fiction n'ont pas toujours été des succès commerciaux, notamment parce que l'érotisme, ça ne marche pas au Québec, comme on le lui a déjà dit. Un titre comme « Comédie sentimentale pornographique » ou encore une scène de sexe comme celle qui ouvre « Rôle de composition » semble en effet suffire à effrayer le lectorat québécois. L'envie de raconter certaines histoires personnelles était là aussi qui pointait son nez. Le retour vers l'intime, avec Jardin des complexes, se préparait donc depuis longtemps, à travers ses autres occupations parce qu'il faut bien gagner sa vie et que ce n'est pas en faisant des livres qu'on paye le loyer. Parmi ses occupations, il y a l'enseignement, qui lui permet de garder une certaine fraîcheur en étant sans cesse confronté aux questionnements des élèves qui veulent comprendre comment faire des choses qui lui viennent maintenant intuitivement. Jimmy et moi, nous avons cette expérience en commun. Enseigner la création, c'est déconstruire beaucoup de ses propres mécanismes pour pouvoir ensuite les exposer aux autres. C'est aussi une manière d'éviter de glisser dans la facilité ou dans l'automatisme. Il existe une différence notable entre nos façons de travailler, toutefois. Tu sais, quand un élève fait des fautes dans un cours de français, tu lui enlèves des points. Moi, quand mes élèves font des fautes, faut que je les corrige dans Photoshop. Les tasses vides, mais quelques questions épuisées. J'éteins l'enregistrement, mais bien sûr, la conversation continue. Nous discutons du fait que, parce que nous racontons des épisodes intimes de nos vies de manière autobiographique pour Jimmy ou à travers la fiction pour moi, les gens sont portés à nous raconter des morceaux de la leur, pour pour le meilleur ou pour le pire. Nous nous rappelons aussi les entrevues qui nous ont paraphrasé maladroitement ce que j'essaie ici d'éviter et nous retournons tranquillement vers l'atelier que je photographie sous différents angles. Alors que je cherche les meilleures images à conserver de notre rencontre, Jimmy me pointe à la blague un coin de sa cuisine où se trouve un plateau orné d'un âne. J'ai comme une illumination. Dans le fond, tu es une sorte de bourriquet. Il rit et va me chercher ses deux éditions différentes de Winnie the Pooh, pas celui de Disney, le vrai. Puis, il s'installe à sa table et, pour ma caméra, s'essaie à dessiner le personnage de la forêt des 100 acres. Si j'y passais la journée, je finirais par l'avoir, lance-t-il, devant le résultat que, pour ma part, je trouve déjà ressemblant. Enfin, je ramasse mes affaires et, sous la pluie qui commence doucement à tomber, je repars vers chez moi, enregistrement et photos en poche, en regrettant de ne pas avoir demandé à Jimmy si je pouvais garder son dessin de bourriquet. Cet âne mélancolique et un peu bourru, souvent dur envers lui-même, mais que tout le monde aime et accepte comme tel parce que ça fait partie du personnage. C'était Maude Neveu-Villeneuve dans l'univers de Jimmy Beaulieu, chez l'artiviste mélancolique, un texte de Maude Neveu-Villeneuve, paru le 13 juin 2023 dans la revue Les Libraires.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.